Au départ, il y a ce texte de Pérec, espèce d'espace. Et ce que ça crée en moi quand je lis la fin du livre. J'ai d'ailleurs lu la fin du livre dès le début. Je fais souvent ça. Je vis la fin des histoires avant qu'elles aient le temps de commencer. Je vous le lis. J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés. Des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où je serais née, l'arbre que j'aurais vu grandir, que mon père aurait planté le jour de ma naissance, le grenier de mon enfance empli de souvenirs intacts. De tels lieux n'existent pas, et c'est parce qu'ils n'existent pas que l'espace devient question, cesse d'être évidence, cesse d'être incorporé, cesse d'être approprié. L'espace est un doute. Il me faut sans cesse le marquer, le désigner. Il n'est jamais à moi. Il ne m'est jamais donné. Il faut que j'en fasse la conquête. Mes espaces sont fragiles. Le temps va les user, va les détruire. Rien ne ressemblera plus à ce qui était. Mes souvenirs me trahiront. L'oubli s'infiltrera dans ma mémoire. L'espace fond comme le sable coule entre les doigts. Le temps l'emporte et ne m'en laisse que des lambeaux informes. Écrire. Essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose. Arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse. Laisser quelque part un sillon, une trace, une marque ou quelques signes. Au début, dans mon dossier artistique, oui, parce que avant de commencer un projet, on écrit d'abord un dossier, avant d'écrire un spectacle. Bon, dans ce dossier, j'ai supprimé la phrase « Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où je serais née, l'arbre que j'aurais vu grandir, que mon père aurait planté le jour de ma naissance, le grenier de mon enfance empli de souvenirs intacts. » J'ai supprimé cette phrase. Je l'ai barrée. Et je me demande pourquoi. Pourquoi j'ai enlevé ce bout de texte de Pérec. Je sais pas, peut-être pour me sentir perdue, pour trouver une raison à ce vide que je perçois souvent à l'intérieur de moi. J'avais en tête ce corps paysage, mais je me sentais pas appartenir à cette terre. J'avais fui cet endroit. Je m'étais fondue dans le moule de Paris. Je pensais pas que cette terre me manquait, que j'en étais fière, qu'elle faisait partie de moi. Et peut-être que finalement, c'est une terre assez vide. Des grands espaces, des trous, des flaques, de la boue. Peut-être que ce vide à l'intérieur de mon ventre, il est rempli de tout ça. Peut-être qu'aussi je voulais tordre le cou à cette famille silencieuse. Lui redonner de la grâce, du volume, de l'importance, faire du moche, du qui pue, quelque chose de fort, de beau, de plein d'entier. Peut-être que je veux écrire pour pas oublier tout ce qu'on a passé sous silence. Tout ce sur quoi on a fermé les yeux. Et tant pis si ça fait mal, et tant pis si c'est tout cabossé, tant pis si le chemin est long, tant pire pour elle, comme dirait ma grand-mère. Tant pire. Est-ce que c'est si pire que ça chez moi? Ici? Le spectacle, il aurait pu s'appeler La Chartière. Mes frères, ils m'appelaient comme ça quand j'étais petite, parce que je parlais fort. Enfin, je parlais pas, je gueulais. Sûrement pour exister face à eux, pour pas qu'on oublie la fille. Un vrai garçon manqué, que les autres, ils disaient. Sûrement parce que j'avais compris qu'être fille, au pays des rustres, ça allait être coton. Fallait l'ouvrir. La trouée, c'est un peu ça que ça veut dire. Ouvrir grand la bouche et gueuler. Quand Émilie me propose d'aller voir Marilyn, et surtout un élevage de cochons, je dis tout de suite oui. Parce que petit 1, elle s'appelle comme Monroe, et petit 2, j'adorais les cochons. C'était mon animal préféré. Clara, mon amie d'enfance, m'appelait Marilyn Groingoin. J'aimais tellement cet animal que j'en faisais la collection. Des peluches en cochon, des porte-clés, des figurines, bref, tout ce qui portait l'inscription cochon, je gardais. Jusqu'au jour où mon grand-père a acheté un cochon à ma petite cousine et pas à moi. Et qu'ensuite j'ai dû nettoyer son enclos toutes les deux semaines parce qu'elle refusait de le faire, prétextant qu'elle me le prêtait et que c'était pas son cochon. Bref. On arrive là-bas, dans l'élevage de Marilyn. C'est tellement bruyant. Il y a toutes les truies qui se font téter par quantité de porcelets. Lucille et Émilie trouvent que ça pue. Moi, étonnamment, j'aime bien. Ils peuvent sortir en plein air. Leurs enclos sont larges. On arrive pendant qu'il les nourrit. Le mari de Marilyn. Dans le magasin qui vend du cochon, mais pas que. Il y a aussi de la bière, des volailles, des pâtes bio, du pâté. Marilyn, elle est là. Large. Un petit nez de cochon. Marrant comme elle ressemble à l'animal. Mais c'est pas méchant dans ma bouche. Elle nous dit qu'elle s'était jurée de ne pas se marier avec un agriculteur. Tout, mais pas ça. Bon, puis elle rajoute, c'est raté, ça fait 30 ans que ça dure. Un jour, je sais plus si c'est son petit garçon ou elle, bref, ils ont donné un prénom à une truie. Il faut jamais faire ça. Parce qu'après, pour la tuer, c'est quasiment impossible. On s'attache à l'animal. Une de ces truies, très farouche, a une portée. Tous les jours, Marilyn va la voir, tous les jours, elle lui parle, et une relation se tisse entre elles. De la confiance, certainement. L'animal s'habitue à sa présence. Presque dans ses grognements, Marilyn pense qu'elle lui parle. Jusqu'au jour où la truie met bas, et Marilyn s'approche de l'enclos, mais elle sait qu'il ne faut pas s'approcher des petits, au risque de se faire attaquer par la mère. Mais là, ça s'inverse. La truie l'invite dans l'enclos, lui présente un à un ses petits, comme le ferait une fille à sa mère. Marilyn, elle avait l'impression de devenir sa grand-mère, sage-femme, accoucheuse, tati. Quand il a fallu tuer la bête, elle a tenté de demander à son mari qu'exceptionnellement, est-ce que c'est possible de la garder, ce petit animal, comme un animal de compagnie? Mais en vain. Ce spectacle, il aurait pu s'appeler aussi « Vélage », faire accoucher la terre qui m'a vu naître. Faire parler toutes ces femmes, les accoucher à mon tour. Quand j'étais petite, les vélages, c'était interdit. On n'avait pas le droit d'aller voir, sauf moi. Je n'attendais que ça. Qu'une vache n'y arrive pas et qu'on doive l'aider à la délivrance. Ma mémé était trop forte. Elle enfonçait son bras dans le cul de la vache, attachait une corde au pied du veau, à l'intérieur, et puis ensuite il fallait tirer, tirer de toutes nos forces en suivant les contractions de l'animal. Et pouf, un petit paquet plein de viscuosité tombait à terre. Fallait faire gaffe qu'il se pète pas les hanches lors de la chute. Fallait vérifier tout de suite si c'était un mâle ou une femelle. Les femelles, c'était cool. Ça voulait dire qu'on la garderait dans le troupeau des vaches laitières. Il n'y a qu'à la campagne, dans les fermes laitières, qu'on est content quand c'est des femelles qui arrivent. Je me demande pourquoi c'est pas pareil quand il s'agit de reprendre une ferme. Pourquoi on n'est pas content quand c'est une fille qui reprend? Ensuite, on enregistrait le numéro de la vache. Ensuite, on préparait les papiers sur la grande table, sur la toile cirée, pour déclarer la naissance le lendemain. Et ensuite, on allait se recoucher au milieu de la nuit. La vache ne gueulait plus, le petit tétait, et moi j'étais si fière d'avoir aidé ma grand-mère. J'ai fait quelques entretiens dans le nord de la France, le vrai nord comme on dit. C'est Thierry qui m'y emmène. Dans la voiture, il me parle de sa vie. On traverse des champs inondés, que des maisons en petites briques rouges, des villages simples, vides, sans trop de vie, Mais où il y a un truc quand même. Le bistrot. Il a travaillé dans les arbres toute sa vie. Une entreprise d'élagage. Il a construit des cabanes dans les arbres pour les jeunes des cités. Bref, c'est un chic type. Un garçon de paysan. Il a essayé de reprendre la ferme, mais c'était trop rude. Son père le forçait à ne pas faire ses devoirs et à l'aider au champ quand il était môme. Puis après, il a pas voulu lui filer la ferme en héritage. Il lui faisait payer la location des champs. Il n'y avait pas d'eau. Il en a eu marre et il a monté sa boîte d'élagage. Et il s'est passionné pour ça, les arbres. Comment ça pousse là-haut, mais comment ça se déploie en bas. Lui, il dit que le paysan porte le caractère de sa terre. Si c'est une terre noire, rude à cultiver, le paysan sera plus dur, plus renfermé que ceux qui font du lait. Ceux qui font du lait, ils ont un joli teint, une belle peau. Jusque tard, sans rides, une peau de lait. Une peau de vache, ouais. On arrive chez des agriculteurs laitiers. Le corps de ferme est magnifique. Une cour carrée d'époque. C'est la dernière ferme du village. Il y en avait 13 avant, des fermes, comme ça, dans le village. Une arche à l'entrée de la ferme, tout en briquettes rouges. Et une stabulation moderne au bout du village, un peu à l'extérieur, près des éoliennes. Elles produisent moins ces vaches, depuis que les éoliennes ont été posées. Ça les dérègle. Mais selon les études, ça fait rien. Lui, il y croit pas que ça fait rien. Sa femme est pharmacienne pour amener un salaire dans la famille. Elle est submergée. Trop de travail, elle bosse toute la journée, le matin traite, journée pharmacie, soirée traite, puis s'occuper du reste. Sa fille et son fils sont brouillés. Ils n'ont pas réussi à faire une belle passation, un bel héritage. Ils n'ont rien vu venir. Comment ça a pu pour un bout de terrain vriller comme ça? Elle, elle pleure en nettoyant le temps qu'elle est. Ses larmes qui coulent au milieu du lait brassé. On est toutes les deux brassées d'émotions. Ils ont besoin de parler, ces gens. Moi, j'ai pas les épaules assez solides. J'ai presque envie d'arrêter ces entretiens. Elle me raconte l'histoire d'un suicide. Une femme de ferme, une femme de paysan, criblée de dettes, qui s'est suicidée avec son outil de travail. Elle a avalé les produits de lavement du temps qu'elle est. Je la vois, elle, vivante. Éreintée, mais vivante. Devant moi, en train de passer au jet d'eau ses outils de travail. Je vois le bidon de lavement, je la vois lâcher ses mots là dans le vent, brassés eux aussi dans le roulis-roulis du temps qu'elle est. Je me souviens pas que le lait de ma grand-mère sente l'ensilage. L'ensilage, c'est un agglomérat de maïs et de graines qu'on stocke dans un silo et qu'on donne aux vaches l'hiver. Ça a une odeur bien âcre. Moi, j'aime bien. Je me souviens du goût du lait en poudre qu'on préparait pour les petits veaux. Au lieu de donner le lait des vaches aux veaux qui venaient de naître, on leur préparait dans un grand faitout, sous un socle en gaz portatif, à cause de la cuve à lait, on leur préparait du lait en poudre. Autant de grosses cuillères de lait en poudre que de verres d'eau par cuillerée. Je comptais le nombre de cuillères, je les versais depuis un sac de 30 litres, comme un sac de plâtre un peu. Et l'odeur de la mixture était incroyable. Ça sentait le sucré, le doudou, le bonbon, le gourmand, et tous les petits enfants l'ont fait. Ma grand-mère détourne le dos, elle fait genre qu'elle nettoie la cuve à lait ou la stabulation. Et moi je goûte. C'est dégueulasse. Infâme, âcre, terne, pâteux, bref, ça n'a pas du tout le goût de l'odeur. Et c'est la grimace de l'enfant, et le rire de la grand-mère qui a tout vu par-dessus l'épaule tournée. On l'a tous fait, on y a tous goûté, pas pu résister. J'ai vu deux autres fermes dans le Nord. Celle de la belle-mère de Thierry. Elle voulait pas parler. Pas envie, trop lointain, trop rude, cette vie-là. Elle la voulait pas. Voulait pas faire ce métier-là. Quel métier? Hein? Je comprends rien. Ta mémé aussi était paysanne? Ah oui, oh, ben moi je me souviens de rien. J'aime rien dans ce métier, non. La maison, oui. Oui, la maison, je l'aime bien, oui. Plus aucun champ. Nous appartient tout autour, non. Mais la maison, oui, j'y tiens. Et puis il y a eu un autre qui travaillait dans les chevaux. On a parlé PMU. Il était du mauvais côté du PMU. Il était naisseur de chevaux, entraîneur, et il avait une ferme à côté, mais il était très pédant. Des chaussures à glands pour me faire visiter son entreprise. Il voulait tout faire, une brasserie, multiculture, les chevaux, un resto, une auberge. Mais au final, bon, c'est un bon comptable. Il organise des chasses à cours pour les bourgeois du coin. Et ce sont ses fils qui sont réellement agriculteurs. Enfin, agriculteurs. Thierry, il dit que les marches de leur tracteur sont tellement hautes qu'ils savent même plus être connectés à la terre. Qu'ils savent même plus ce qu'ils plantent. Les sols sont fatigués de porter des machines de ces tailles-là. C'est vrai que leur moissonneuse-batteuse, c'est la plus grande d'Europe. On dirait un monstre à valeur de grandes personnes. Ou un lycée sur roue. Un immeuble qui se déplace dans la boue. Ça me dérange pas de parler avec tout type de cultivateur, mais là, ça me semblait vraiment déconnecté de ma réalité. De ma ruralité. Pourtant, ça existe. Même par chez moi. Des grands engins pour des grandes plaines. Quand j'étais petite, avec mes cousins et mes cousines, on faisait des cabanes dans la bétaillère. C'est une sorte de grande pièce rectangulaire à ciel ouvert. Les rebords des roues, ça formait nos canapés. On fabriquait des bols, assiettes en argile qu'on faisait sécher pour jouer à la dinette dedans. Les branches d'arbres, c'était le téléphone qu'on attachait à un bout de ficelle, les ficelles bleues à ballots de paille, dans un coin de la bétaillère. On rajoutait de la paille pour faire un lit, et on jouait des journées entières dans notre cabane appartement à ciel ouvert. Parfois, la pluie détruisait tout, et on recommençait. Parfois, Pascal, mon oncle, détruisait tout, et on recommençait. C'est pas lui qui détruisait. C'est les vaches, en montant dedans pour aller à l'abattoir, qui ne voyaient pas qu'elles mettaient de la boue partout dans notre chez-nous, qu'elles cassaient le téléphone. Pourtant, elles gueulaient pour pas y aller. J'ai vu un film, Bovine, où la vraie vie des vaches, qui montre la même scène. Des vaches qui vont aller à l'abattoir. Je n'étais plus enfant et je comprenais qu'elles sentaient tout, même quand la fin était proche, que c'était le dernier voyage. Beaucoup de cabanes dans la bétaillère jaune et beaucoup de déménagements vers l'abattoir.
Crier comme une bête la blessure. Puis l'animal se tait, mais la douleur demeure. Elle commence, elle se plante au chaud du corps, elle brûle. Je crie si fort que la campagne est ivre. L'écorce éclate des bouleaux, l'ombre des chênes se replie, l'herbe du pré s'est faite cendre. Je crie si fort que le soleil s'efface et que le jour se fend. Mais la douleur demeure. Je crie, et l'espace se rétrécit. C'est la blessure de l'abîme. Je crie, et l'univers n'est que ce cri, ma déchirure. Je crie, s'écroule sur mon cri le vent du nord, la cathédrale, l'orage, les rosiers en fleurs. Je crie, mais la douleur demeure. Et quand le souffle est achevé, lorsque l'écho s'est arrêté de partager le ciel, il faut laisser fleurir les roses, le vent respirer, l'ombre des pierres, le pré et les arbres jouer avec l'eau vive et le soleil. Mais la douleur demeure. Marcel Delpastre, La douleur, 17 octobre 1970.
Je crois que c'était en 2020, ou bien 2019, au début du printemps en tout cas. Il y a la fête des estives. Le moment où toutes les vaches en montagne, à Aurillac, sont emmenées sur les hauts plateaux. Le moment où elles sortent des granges pour aller à l'herbe. On les habille, Des fleurs dans les cornes, des cloches gigantesques. On les lave, les juge. Il y a des concours de beauté. Et elles défilent avec leurs paysans. Elles sont belles, les Salers, avec du maquillage noir autour des yeux. Le midi, on mange un bœuf à la broche. Je l'ai mangé. Mais je faisais pas la fière. J'avais vu des vaches sublimes toute la matinée. Alors manger le midi le bœuf qui avait gagné le concours l'an dernier, ça me faisait pas plaisir. Mais j'ai rien dit parce que le paysan, lui, il était fier. Je voulais pas faire ma parisienne. La ferme Bourfaux est gigantesque. Ça fait partie des grosses fermes céréalières de la région. Ils ont aussi des vaches laitières et des vaches à viande. Vous savez, les vaches marrons, je dirais des limousines. La première fois, elle me fait rentrer dans sa cuisine, immaculée. Une table rectangulaire au milieu de la pièce et les chaises collées au mur tout autour, loin de la table, comme chez ma grand-mère. La table doit servir à beaucoup d'autres choses que de s'asseoir pour manger. Claudine, elle dit toujours « oui, 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 oui », dès que je lui parle. Comme si ma parole était d'or. C'est son fils qui a repris la ferme. Elle dit « Ulfis ». Je n'ai jamais su son prénom. Claudine est discrète. Une de ces femmes de ferme qui ne fait pas de vagues. Fait ce qu'on lui dit, répond poliment. Une femme vraiment dans l'ombre. Son petit-fils Gauthier, 6 ans, me fait visiter la ferme. C'est son oncle qui lui a tout appris. Il est tout petit, dans une cotte de travail verte poubelle, bottes aux pieds, et il se tient comme un paysan, les mains dans le dos. Il manie la fourche, prend les énormes betteraves à sucre dans ses mains, nous la décrit. Laine, ça a la forme d'une betterave à sucre. Puis, la jette au sol. Le même geste qu'aurait pu faire son oncle. Il nous parle d'hectares, de taux, de vélages. Il caresse les bêtes du plat de la main, fermement. C'est impressionnant comme son corps a tout intégré. Les gestes de ce travail, les expressions, les endroits où son regard se pose, où il fixe un troupeau avec intensité. Il regarde loin, fier des terres qui ne lui appartiennent pas.
Je te trais, tu m'attrais et m'attires. Je te veille, tu me veilles. Je t'en vaux, tu me rumines. Je te picore, tu me caquettes. Je t'élève, tu me hors-sol. Je te poule, tu me pondeuses. Je te coque et t'omelette. Tu me cotas, je te paque. Je t'ensilage, tu m'enrubanes. Je te moissonne, tu me batteuses. On se récolte, on se sillonne, on se pâture. Tu te cabres, je te réforme. Tu me mets bas. Je te pouliche, je te meugle, beugle et bétaillère. Tu m'abreuves, je t'hectare, te possède, te fromage, beurre, baratte et cul de la crémière. Je te semis, tu me laboues, je te botte, tu me fous et me chafouilles. Tu me clôtures et barbelé, et tu me têtes, je te cornadisse, tu tu me cheptelles, tu m'estives, je t'esquive, tu pâturages et herbes folles. Je te paillage, tu me stabules, je te fumier, tu me fumières. On se fourragère, tu me betteraves, je te jachère, je te serre, mes sous-serres, je te terre, tu me semoires, je te sarclage, tu me remorques, je te presse, tu me purins, je te herse, tu te hérisses et te nitrates, je te paille, parcelle et paysanne.
Je n'ai qu'un souvenir joyeux de Pépé. Un jour, on est allé dans un champ faire une balade, tous les deux, je devais avoir 7 ans. Je pense que c'était pour aller jeter un œil à une de ses pâtures. Il m'a pris la main. C'était la première fois que mon grand-père avait un geste tendre envers moi. Il s'est mis à sautiller, à chanter « Trois petits chats, trois petits chats » ou une comptine de ce genre, je sais plus. Mais je me rappelle de ma main dans sa main faisant des bonds joyeux dans le champ. Mes cousines et moi, on préparait des parfums aux fleurs pour m'aimer. On cueillait toutes les fleurs de son jardin, on les mélangeait dans une bouteille d'Évian qui servait aussi à vendre du lait avec de l'eau. Il y avait tout un réservoir à bouteilles en plastique dans une pièce pour les Marocains qui venaient acheter le lait. Je me souviens de l'odeur nauséabonde des fleurs, mais ma grand-mère, toute douce, se faisait des giclades de parfums en disant « Mmm, quel bonheur !» pour nous faire plaisir certainement. Ma grand-mère est une grande comédienne. Derrière un tas de pierres, qui était devenu la cabane au fond du jardin, Clara, mon amie d'enfance, et moi, on faisait de la soupe à la limace. Clara remplissait une vieille boîte de conserve d'eau. Moi, je soulevais les pierres et ramassais les limaces que j'enfournais dans la soupe. Je grattais de la brique rouge pour faire de la poussière de brique. Les limaces flottaient dans la mélasse. Clara était dégoûtée. Mon père n'arrivait pas à faire semblant de se régaler dans notre restaurant au bout du jardin. Mon père est un piètre comédien. Je voudrais vous parler de Ruth. C'est très court parce que je l'ai rencontrée quelques minutes à un festival de contes en ferme dans les Deux-Sèvres. Oui, je fais ce genre de truc, je vais dans des festivals de contes en ferme dans les Deux-Sèvres. Ruth, elle vient du Québec. Et pour son année sabbatique, elle est partie en France. Elle a bossé dans des fermes, mais pas vraiment pour en faire son métier. Puis après, elle s'est reconvertie parce qu'elle a eu un déclic. Son déclic, c'est qu'elle a mis ses mains dans la terre, à la base, pour arracher des pommes de terre, arracher les patates. Mais ça a été plus que ça. C'était pas juste faire son métier, arracher des patates, non. Ruth, elle a eu la sensation de faire accoucher la terre, de quelque chose. Qu'elle était presque comme la sage-femme des pommes de terre. Et j'ai trouvé ça sublime. Ruth, les yeux remplis de larmes, qui me dit qu'elle est devenue naisseuse, accoucheuse de la terre. Félicie est venue voir une lecture de La Trouée dans un festival de contes paysans. Le soir, elle me dit que je dors chez elle. J'avais un matelas dans mon camion. Je dis à Yann, son mari, que ça me gêne qu'il me laisse leur chambre. Que ça va, je dors dans mon camion, c'est ok. Yann insiste. Il me dit que c'est moi qui ai travaillé et que j'ai le droit de bien dormir. Le lendemain, il se lève tôt pour aller au marché. Yann est timide, un peu bourru et méfiant. Un paysan, quoi. Je lui demande s'il veut de l'aide pour le marché. Il me répond que non. Le lendemain, je me lève tôt. Je vais faire un tour sur l'étalage. Je vois qu'il est dans le rush. Il lui manque des haricots verts. Je lui propose d'y aller, comme ça je verrai sa parcelle de maraîchage. Je ferai un tour là où il bosse. Il se détend, me fait visiter puis se met à ramasser les haricots sous serre. Je lui demande pas si je peux l'aider. J'ai bien compris que si je lui demandais, il me dirait non. Je vais à l'autre bout, prends un panier et me mets à la cueillette. Et là, Yann me crie à l'autre bout de la serre. Mais ça va pas là, on peut pas causer, t'es trop loin. Tu veux causer ? Je lui dis. Bah oui, viens, on se met au milieu et on fait ensemble. Yann m'a raconté toute son enfance, comment il en était venu à faire du maraîchage, la violence de la ruralité, le regard jugeant des autres sur son métier, la peur de se casser la gueule et la fierté d'avoir sauté le pas. Il se détend. Faire avec lui l'a mis en confiance. Il s'est dit, ok, elle est comme moi. Et avec Yann, je comprends que les langues se délient si les mains sont occupées à autre chose. Je n'ai jamais été plus heureuse que lorsque je prenais la route. Que la route défilait dans la nuit. Que je sentais que j'allais me perdre. Que le GPS déconnait. Je n'ai jamais été plus heureuse que lorsque j'arrivais dans une ferme. Je n'ai jamais été plus heureuse que durant ces rencontres où je me reconnectais avec ce monde-là. Je me dis que c'est une terre silencieuse au premier abord. Mais si tu fais avec eux, et avec elles, ton corps, il rentre dans le silence. Et ça devient bruyant, causant. Ils sont remplis de mots, de joie aussi malgré tout. Le monde paysan, ça se plaint pas. Il s'adapte. Tous ces corps s'adaptent à la rudesse de la terre, à l'âpreté des lieux qu'ils ont pour la plupart fini par choisir. L'héritage souvent subi devient fierté. Fierté d'avoir réussi à tenir, à être resté. Rester ici. Souvent, j'entendais dans le poste de radio ce mot « confinement ». En partant d'une ferme, je me disais qu'ils avaient tous choisi un endroit où se confiner. Un endroit où le paysage les rendait libres, aliénés parfois à cette terre, mais fiers de la travailler. Moi, je sais toujours pas où confiner, de quoi être fier, de quel bout de paysage j'ai besoin. Je sais que j'ai besoin de rencontres, de remplir ces plaines à l'intérieur de mon paysage intime, que ce sont les humains qui deviennent maison ou me lover. Dans leurs histoires, je construis la mienne. Un corps maison, un corps paysage, un corps monde. On y revient. Encore et encore. Mon grand-père a dit un jour à ma mère, dont il avait lu le journal intime, sacré grand-père, les paroles s'envolent, les écrits restent. La plupart des choses écrites là, dans ce journal, dans ce carnet de bord, sont issues de souvenirs des paroles qui m'ont été confiées. Je sens bien la nécessité d'écrire, de garder une trace, comme dit Pérec, de tracer un sillon, une route, une marque, de garder quelques bribes de ces conversations, de ne plus laisser de place au vide. Je crois que je suis bien remplie maintenant.